RCF. Bonjour à toutes et à tous. Sans mémoire, il n'y a pas de culture. Sans mémoire, il n'y a pas de civilisation, pas de société, pas d'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elie Wiesel. Et je dois avouer qu'au travers du climat social, économique, politique, géopolitique, environnemental dans lequel nous sommes, particulièrement depuis dimanche, il est bon de se souvenir d'où l'on vient et de ce que l'on a vécu pour savoir où l'on a envie d'aller. Et cette semaine, eh bien, j'ai envie d'évoquer avec vous la place de la mémoire dans l'entreprise, un concept souvent méconnu mais pourtant fondamental pour la pérennité et l'identité de nos boîtes, une forme de machine à remonter le temps pour mieux engager la stratégie à venir. Mais qu'est-ce que c'est qu'exactement la mémoire de l'entreprise? Rien à voir bien évidemment avec le tiroir poussiéreux où s'entasse le rapport d'Assemblée Générale de 2010 ou les différents rapports RSE. Il s'agit plutôt de l'ensemble des actions et des efforts déployés pour préserver, transmettre et valoriser les savoir-faire et l'histoire d'une entreprise. Imaginez un coffre rempli de connaissances, d'expériences et de leçons précieuses qui, bien conservées, peuvent guider et inspirer des générations futures. Peut-être même plus, d'ailleurs, que le concept clinquant d'innovation ou de digitalisation. Une entreprise sans mémoire, c'est un peu comme un amnésique tentant de retrouver son chemin dans une ville connue. Sans mémoire, il n'y a pas de repères, pas de continuité et encore moins de sagesse accumulée pour éviter de répéter les erreurs du passé. Préserver la mémoire d'entreprise, c'est assurer la transmission des savoirs, renforcer le sentiment d'appartenance et construire une identité solide et résiliente face aux aléas du marché. Mais comment faire pour que cette mémoire ne soit pas seulement l'affaire des nostalgiques du comité de direction ou des archivistes en herbe? Comment impliquer tous les employés dans cette démarche? Et surtout, comment rendre ce sujet aussi passionnant et excitant que la dernière saison de votre série préférée sur Netflix? En écrivant cet éditorial, je me suis pris à remplacer entreprise par France et je dois vous avouer que j'ai beaucoup, beaucoup pensé à la situation que nous vivons et traversons en ce moment dans notre pays. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions cette semaine. C'est la mémoire de l'entreprise qui sera au cœur de notre dossier avec Anne Kiefer de l'observatoire B2V, un observatoire dédié justement à la mémoire de l'entreprise. Un sujet un peu méconnu qui, je l'espère, le sera beaucoup moins à l'issue de notre échange avec Anne. À la fin de cette émission, on retrouvera nos 7 minutes pour changer le monde avec l'un des lauréats de la Silver Valley. Il s'agit d'une association qui s'appelle La Ville à Joie. On en saura un petit peu plus à la fin. Je laisse le mystère planer. Puis, bien évidemment, on retrouvera Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où on évoquera la place de l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Mais comme chaque semaine, on commence avec notre invité écho. Il s'agit de Sébastien Darrigan, nouveau directeur général du CECA.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis donc avec Sébastien Darrigan, qui est le nouveau directeur général du CECA. Le CECA, vous savez, on se retrouve chaque année au mois de septembre depuis le château de Smith-Lafitte pour ses universités hommes-entreprises. Sébastien succède après plusieurs décennies de direction à Christophe Delachaise. Bonjour Sébastien.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous reprenez cette direction générale du CECA. Les universités hommes-entreprises sont l'événement de rentrée. On sait bien, le CECA ne se positionne pas uniquement sur ces universités, mais accompagne les entreprises de manière plus générale, particulièrement sur des questions de formation. Sébastien Darrigan, vous succédez à Christophe Delachaise, qui a marqué ce CECA. Comment vous abordez cette transmission? C'est d'ailleurs le thème des universités hommes-entreprises, mutation, héritage et mutation. Comment vous récupérez cet héritage et comment vous orientez la mutation du CECA?
Vous savez, quand on prend la direction générale d'une organisation qui est née en 1987 et dont le directeur général a été aux affaires pendant une vingtaine d'années, forcément, on reprend un héritage fort en matière de transmission, des offres, des actions que nous menons au bénéfice des entreprises. Hein. Le CECA, c'est trois métiers, la formation, la communication, l'événementiel. Donc, en fait, en réalité, moi, je vais à la fois conforter le CECA dans ses fondamentaux, c'est-à-dire sa volonté d'accompagner les dirigeants, les managers dans leur transformation et dans leur changement managériaux, mais aussi les changements des modèles d'affaires hein, qui sont très très forts aujourd'hui, qui impliquent effectivement de se repositionner sur des nouvelles approches hein, managériales, nouvelles approches de la façon dont on a d'appréhender la performance durable, la performance globale dans l'entreprise. Donc je vais à la fois m'appuyer sur tout ça et puis aussi projeter le CECA dans une nouvelle ère qui est davantage positionner notre agence de formation et de communication sur les enjeux de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.
Alors justement, vous parlez de cet héritage, de cette transformation du monde, l'entrepreneuriat et l'entreprise bougent, le monde bouge beaucoup, que ce soit du point de vue social, sociétal et environnemental. Quels sont justement les défis qu'ont à relever les chefs d'entreprise, sachant que pour vous appuyer sur la réponse que peut-être vous allez me faire, vous avez sondé ceux et celles qui participent aux universités hommes entreprises assez régulièrement et vos clients du CECA.
Absolument. On vient de mener une enquête hein, sur ces sujets qui montre que d'abord, il n'y a pas une seule entreprise qui n'est pas concernée par les transformations. Ça, c'est quelle que soit leur taille. Donc ça, c'est un point important. Et que globalement, tous les dirigeants, tous les managers aujourd'hui sont dans une approche d'intégrer ces dimensions-là, de les préparer avec beaucoup de questions, hein, parce que c'est pas simple hein, de préparer des transitions et des mutations importantes, mais on voit que ça devient très 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 important. Alors parmi ces défis, parmi les défis que les entreprises ont à relever, il y a d'abord quelque chose qui ressort fortement, c'est le défi lié à l'attractivité des métiers et aux richesses humaines dans l'entreprise. On voit aujourd'hui la difficulté qu'ont les entreprises de fidéliser, de recruter des collaborateurs et d'embarquer ces collaborateurs dans l'accompagnement des mutations, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient liées tout simplement aux évolutions très fortes des modèles des modèles d'affaires, puisque les modèles d'affaires vont être très perturbés par l'épuisement des ressources et par l'évolution de la croissance économique qui, par le fait des transitions environnementales et du dérèglement climatique, vont apporter sans doute des réponses nouvelles au modèle d'affaires. Il y a cette question.
Alors, j'avance un peu dans la réflexion aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle, dont on parle énormément aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a pas d'ailleurs un moteur de recherche, il n'y a pas un des gros acteurs de l'informatique, de Microsoft à Google, en passant par des startups françaises comme Gemini qui s'y intéressent. Est-ce que les chefs d'entreprise aujourd'hui s'intéressent à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils la prennent vraiment en compte ou il y a encore un peu besoin d'adoption de ces nouvelles pratiques, de compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle et de ce qu'elle peut apporter?
C'est pas encore un défi au sens qui est premier en fait pour l'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est repéré comme étant une forte préoccupation mais qui apparaît pas forcément au-dessus de la pile dans les défis qu'ont adressé les entreprises qui sont plutôt autour des enjeux RH, des enjeux d'attractivité puis des enjeux autour de la transition environnementale. Mais ça monte, ça devient une préoccupation très forte et surtout il y a un énorme besoin d'accompagnement sur les nouveaux enjeux de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative et sur la façon dont cette intelligence artificielle générative va mobiliser, va impacter les métiers de l'entreprise et la façon dont l'activité des entreprises vont être percutées par l'arrivée de cette intelligence artificielle.
Alors, le programme, c'est quoi, Sébastien? Faites-nous un peu saliver parce qu'on est, à la mi-juin, les universités ont lieu fin août, donc il est encore temps de prendre éventuellement ses places. Hein. C'est un peu comme ces grandes tournées de concerts pendant l'été de nos stars de la chanson française et internationale. Alors, qui sont les invités pour répondre à cette question, ou du moins à ces deux mots, héritage et mutation, Sébastien Darrigan?
On a souhaiter que ces deux mots nous permettent à la fois, enfin de répondre à la fois aux mutations les plus rapides que l'humanité n'ait jamais eu à connaître, hein, puisque sous la pression, on le disait, du dérèglement climatique et de la révolution technologique. Et pour cela, on est allé chercher les meilleurs. On a identifié sur la question de l'héritage trois acteurs forts, qui sont Christophe Barbier, que je présente pas. On a souhaité aussi avoir une approche philosophique de l'héritage à travers l'intervention de Charles Pépin et d'Émilie de Bueil qui viendront nous parler de la façon dont le passé peut éclairer l'avenir dans une vision philosophique des choses. Et nous aurons également, sur la question de l'héritage, nous avons fait appel à Christian Monjou, qui est un conférencier qui travaille sur l'articulation entre l'art et le management et qui est allé chercher un tableau de la Renaissance qui montre le passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et il va expliquer comment ce passage entre deux mondes, on le retrouve aujourd'hui dans les transitions et les mutations que nous sommes en train de connaître. Donc ça, c'est sur l'héritage. Et sur les mutations, on a été chercher des conférenciers qui nous permettent à la fois d'appréhender les nouvelles clés de la mondialisation économique. Faut-il parler de croissance verte ou de décroissance? On écoutera là-dessus Timothée Paric, qui est un économiste spécialiste de la décroissance, et Christopher Guérin, qui est dirigeant d'une grande entreprise, Nexans, qui a mis en place un modèle d'affaires qui met en évidence la responsabilité sociale et environnementale des segments d'activité de façon un peu nouvelle et un peu innovante. Et on aura par ailleurs un certain nombre d'intervenants qui viendront autour de l'entreprise connectée au vivant, l'entreprise régénérative et la question environnementale. Là-dessus, on écoutera Olivier Amand, qui est biologiste, sur ces sujets et qui a notamment travaillé sur la question de la robustesse du vivant. Éric Julien qui viendra nous inspirer pour un nouveau management à la lumière des traditions qu'il a pu observer chez les Indiens Kogis en Colombie. Et nous aurons sur ces sujets également Mariam Daoui qui viendra nous parler de l'héritage de l'océan et la protection de la diversité autour de ce que l'océan doit être protégé. Sur le troisième sujet, qui est le sujet un peu des nouvelles mutations, donc la transition écologique et les quêtes de sens. On aura Caroline Lair, qui est une spécialiste de l'intelligence artificielle et qui, par ailleurs, est une représentante de ce qu'on appelle la Tech for Good, et donc l'entreprise, enfin la dimension responsable de l'intelligence artificielle. Et nous aurons Laetitia Vito autour des nouvelles clés du futur du travail et nouveaux enjeux pour la marque employeur.
Et puis, bien évidemment, plein d'autres invités. On peut retrouver tout cela sur le site internet du CECA. Ça change de nom aussi, hein. C'est plus l'université homme entreprise, c'est maintenant les universités d'été du CECA, le rendez-vous des leaders humanistes. C'est fin août à Bordeaux sur le site de Smith Olafit. Merci beaucoup Sébastien Darrigan d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, on est avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, Pierre, vous allez aborder un sujet immense pour une si petite chronique, l'IA, l'intelligence artificielle, un sujet majeur qui fait couler beaucoup d'encre tant il bouleverse nos sociétés. Alors pourquoi nous évoquer ce sujet, Pierre ?
Le sujet, effectivement, est énorme, mais j'ai eu la chance, il y a quelques jours, de participer à un bureau national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, au cours duquel nous avons pu réfléchir sur ce sujet avec deux experts particulièrement inspirants. Au risque d'être un peu réducteur, j'ai donc décidé de partager leur enseignement avec tous nos auditeurs.
Alors, qui étaient vos intervenants pour commencer déjà ?
Nous avons eu la chance d'accueillir Laetitia Pouliquin et Étienne de Roquigny, la première et autrice, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, et fondatrice d'un think tank qui s'appelle NBIC Ethics. Et le deuxième est un polytechnicien, auteur également et fondateur de Blaise Pascal Advisor, dont la finalité est de remettre la tech au service du leadership, de la stratégie et du sens.
Alors comment s'accorde-t-il sur la définition même du terme d'intelligence artificielle ?
Pour eux, le nom et la rhétorique autour de l'IA est une construction marketing qui fascine et même, ajoute Étienne de Roquigny, qui produit des investissements massifs. Le terme, selon eux, est erroné car l'IA n'ayant pas d'état de conscience ne peut pas être considérée comme une intelligence. Il s'agit plutôt, disent-ils, d'une automatisation apprenante, au contraire de la personne humaine qui, elle, se singularise par son intelligence, mais aussi et surtout par sa liberté, sa capacité relationnelle, son cœur, sa connaissance de ce qui est juste.
Alors on voit bien quand même que l'IA, hein, crée des peurs. des peurs nombreuses, de nombreuses inquiétudes aussi, y compris dans le monde des entreprises.
C'est vrai, mais c'est aussi la mauvaise attitude que nous ont rappelé nos deux intervenants. En fait, il faut dépasser sa peur, même si l'on sait bien depuis le livre de la Genèse qu'il existe en chacun de nous une tentation presque diabolique dans la quête de l'intelligence. Il serait stupide de négliger cette volonté de toute puissance qui nous ramène au péché originel, mais nous sommes invités à passer de la volonté de puissance à l'ambition de service avec l'intelligence artificielle et d'une certaine manière à être le bon serviteur.
Mais alors comment est-ce que l'on peut passer de l'exaltation incontrôlée d'une quête prométhéenne à l'ambition de service, Pierre ?
Trois conseils nous ont été donnés et je les offre bien volontiers à nos auditeurs. Un, il faut se former et former ses collaborateurs. Et il y a urgence, apprendre à être curieux en développant son esprit critique pour utiliser l'IA au service de la personne humaine. Deux, il faut être très vigilant par rapport à la préférence que l'on doit aux plus pauvres. Chaque chef d'entreprise chrétien doit concrètement commencer par ajuster les algorithmes de son activité principale pour servir ses clients sans asservir, en fonction de ce qu'il ou elle définit comme son pauvre dans le cadre de son activité. Alors, dans ce cas, oui, l'intelligence artificielle peut écouter les plus faibles et réintégrer les plus fragiles, les plus pauvres. Et puis troisièmement, et nos deux intervenants nous y ont fortement encouragés, il faut témoigner. La voix des EDC sur l'intelligence artificielle doit consister à rendre compte de nos expériences d'entrepreneurs chrétiens qui mettent l'intelligence artificielle au service du bien commun dans leur entreprise. Et elles existent.
Merci beaucoup Pierre Collignon. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine chronique. La semaine prochaine, c'est d'ailleurs Nicolas Masson qui s'y colle. Nous, on se retrouve après la pause musicale avec notre invité. Il s'agit d'Anne Kiefer. On va évoquer la question de la mémoire dans l'entreprise. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my head, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo. Say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel my love?
Bombs away, bombs away, bombs away.
Can you feel? Rushed it, moving way too fast, and we crushed it. But it's in the past. We can make this slip through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Just a boy with a broken toy, all lost and gored.
At the curtains of the waterfall.
So it's here I stand as a broken man, but I found my friend
at the curtains of the waterfall.
Now I'm falling down through the crashing sound, and you've come around.
At the curtains of the waterfall.
And you rushed to me, and it sets us free.
C'était Geronimo, interprété par Shepherd sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine qui est consacré à la mémoire de l'entreprise. Kezako, eh bien, vous allez tout savoir d'ici quelques instants dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Et on ouvre donc ce dossier consacré à la mémoire des entreprises, à la mémoire de l'entreprise. Et je suis avec mon invité, Anne Kiefer, responsable communication et partenariat à l'Observatoire B2V de la mémoire, consacrée à la mémoire des entreprises. Bonjour Anne.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette question que j'ai déjà abordée dans notre édito d'ouverture. Alors on va évoquer avec vous la question de la mémoire de l'entreprise. Mais la première question qu'on a envie de vous poser d'abord, c'est pourquoi existe-t-il et B2V a-t-il créé un observatoire dédié à la mémoire de l'entreprise ? C'est extrêmement original.
Alors déjà, ce n'est pas que dédié à la mémoire des entreprises. En fait, c'est une thématique qu'on a lancée il y a un an, mais qui élargit un peu le spectre de cet observatoire. L'observatoire, il a été créé il y a 10 ans par le groupe B2V. Le groupe B2V, c'est un groupe de protection sociale, donc qui travaille sur les retraites et les projets d'action sociale au sein de l'Alliance professionnelle et qui gère donc tout ce qui touche à l'accompagnement des salariés tout au long de leur vie jusqu'à la liquidation de la retraite. Il y a 10 ans, la directrice générale du groupe B2V, Isabelle Pécou, a créé cet observatoire de la mémoire et il y a derrière cet observatoire 3 missions. Une mission scientifique, j'allais dire, à travers le conseil scientifique qu'il y a derrière l'observatoire, présidé par Francis Eustache, qui travaille sur tout ce qui est recherche liée aux troubles de la mémoire avec la bourse qu'on soutient chaque année, une bourse doctorante. Il y a un volet grand public qui touche à la vulgarisation des connaissances liées à la mémoire, avec un événement phare biannuel qu'on organise dans des villes de France et qui tourne depuis 10 ans, qui est la semaine de la mémoire. On a une semaine de colloques scientifiques sur le sujet et énormément de projets aussi de vulgarisation à travers des articles, des podcasts, des minutes mémoire. Et on a lancé ce 3e volet l'année dernière parce qu'on s'est dit qu'on ne touchait pas les dirigeants ni la cible des décideurs économiques. Et on a travaillé sur cette nouvelle dimension qui était la mémoire de l'entreprise. Sous toutes ses formes, matérielles comme immatérielles.
Alors c'est très intéressant, la mémoire de l'entreprise, et en écrivant et en préparant cet échange, évidemment, la première entreprise qui me vient en tête quand on parle de mémoire d'entreprise, il y a ces grands noms de l'entrepreneuriat familial qu'on a en France, mais il y a bien d'autres entreprises qui ne sont plus des entreprises familiales. Je pense à Michelin, bien évidemment, qui est... peut-être un des grands exemples aujourd'hui d'avoir su, au travers des siècles et des années et des décennies d'existence, faire perdurer à la fois le nom familial et une sorte de mémoire tant sur les valeurs que sur la stratégie. Mais on reviendra peut-être dessus d'ici quelques instants. Parler donc de mémoire d'entreprise, si on doit définir cette mémoire d'entreprise, de quoi on parle et pourquoi est-elle si importante ?
Alors le sujet est vraiment très important parce que si on questionne le grand public ou un dirigeant, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de mémoire, on pense souvent à l'histoire, on pense au passé et on pense même à la poussière parce qu'on se dit c'est les archives, c'est les documents qui sont à la cave, c'est souvent confié à des retraités de l'entreprise. Mais on ne pense pas à la mémoire vive et à la mémoire vivante. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'était d'aller creuser et interroger à la fois cette mémoire que je qualifie de patrimoniale, que l'on connaît, mais que toutes les entreprises ne valorisent pas, sauf les grands groupes, parce que ça coûte cher aussi de sauvegarder, valoriser, numériser et communiquer sur sa mémoire. Et il y a aussi cette dimension qui nous intéresse plus sur l'observatoire, qui est la mémoire des hommes et des femmes qui constituent l'entreprise, c'est-à-dire ses collaborateurs, et donc tous les salariés qui continuent à œuvrer pour qu'une entreprise, à travers le temps, perdure, se construise, développe ses savoirs, ses connaissances. Et donc là, on est beaucoup plus sur la culture de l'entreprise et sur une dimension qui dépasse l'histoire et qui touche à l'économie, au social, à la culture, aux émotions, aux récits de vie, etc.
Alors pourquoi c'est si important de conserver cette mémoire ? Il y a peu d'entreprises qui la conservent, ou alors on conserve éventuellement la mémoire du fondateur, du dirigeant qui a créé l'entreprise, mais ça s'arrête là. En quoi est-ce que c'est si important ? Et qu'est-ce que vos travaux ont permis de mettre en lumière comme élément de levier stratégique pour l'entreprise ?
Alors c'est vrai que quand on collecte la mémoire, on pense au dirigeant, c'est toujours l'affaire du dirigeant, mais une entreprise, ce n'est pas que son dirigeant, c'est aussi tous les hommes et les femmes qui au quotidien développent l'entreprise, la font, c'est le ciment finalement aussi culturel, c'est tous les savoir-faire, et nous, on s'est dit qu'en fait, il y avait tout un volet à aller explorer sur les seniors. On est parti, en fait, on reparlera de Michelin, en effet, parce qu'on est en train de démarrer un gros projet avec Michelin, sur des collectes de mémoire de seniors qui vont partir à la retraite et aussi de retraités qui sont partis depuis 20 ans. Et on se rend compte que cette mémoire des seniors, elle est intéressante à divers titres. D'abord parce que on découvre à travers ces récits de vie, ces récits de carrière, des choses qu'on n'avait jamais touchées du doigt, qu'on explorait, même des relations intimes qu'avaient certains salariés ou qu'ils avaient avec la famille Michelin. On a certains exemples là-dessus de récents qu'on a eu sur des collectes de salariés partis depuis 27 ans, même, qui sont des médaillés Michelin. Et elle est intéressante sur un autre volet qui nous intéresse aussi, qui est la notion de transmission et de recréation du lien intergénérationnel. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, les seniors et les jeunes entrants sont des populations qui, avec un peu la mentalité des juniors, entre guillemets, qui arrivent dans les entreprises, je suis une boomer, hein, moi, il n'y a absolument pas cette proximité, cette notion de transmission, d'aller vers. Donc, les seniors, ils partent à la retraite avec des cartons et tous ces trésors, j'allais dire, d'expérience, de compétences, de savoir-être aussi. Et les juniors, ils arrivent avec une tête bien faite et ils pensent qu'ils vont pouvoir écrire l'histoire de l'entreprise de demain, mais ils n'ont absolument pas le retour d'expérience de tout ce qu'un senior peut transmettre. Et on est à une époque où cette rupture de lien, elle n'est pas que dans l'entreprise, elle est dans la société, dans les familles. Donc, on est au cœur d'un sujet qui nous intéresse particulièrement.
Alors, comment est-ce qu'on peut rendre... vous travaillez à l'Observatoire, vous travaillez aussi sur la mémoire au sens large du terme, et je pense particulièrement aux maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il est possible de rendre la mémoire à une entreprise qu'il aurait oubliée?
Alors ça, c'est une bonne question, parce que ça serait aller chercher finalement à travers des personnes qui sont détentrices de secrets, peut-être, parce que quand on dit oublier, il y a ce qu'on a oublié volontairement ou involontairement. Donc on pourrait imaginer d'aller explorer sur certains dirigeants qui sont parfois partis, ou quand il y a eu des rachats par des groupes familiaux avec des multinationales, on se rend compte que cette mémoire oubliée, elle est réelle, hein. Donc volontairement ou involontairement, mais je pense même dans le secteur de l'automobile où il y a des groupes familiaux comme le groupe PSA, racheté par Stellantis, comment ils travaillent sur cette mémoire. Forcément, il y a eu à un moment donné une jonction où on parle plus tant que ça de la mémoire d'André Citroën ou de la famille Peugeot, alors que c'est des mémoires liées à des familles, à des transmissions de père en fils, etc. Et puis il y a des mémoires oubliées qu'on a peut-être envie d'oublier aussi, j'allais dire. Des passages pas forcément glorieux ou heureux de certaines entreprises centenaires ou pas seulement centenaires qui auraient peut-être fait des choses pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne les nommerai pas. Aujourd'hui, je trouve qu'on est à l'ère de la transparence. Donc même ces secrets-là, cette trace mémorielle, on a peut-être intérêt aujourd'hui à aller lever le voile du secret, comme je dis.
Anne Kiefer, quand on parle de la mémoire de l'entreprise, on parle de ce qui a existé, de ce qui pourra exister. En quoi c'est un levier pour les entreprises, au-delà de simplement de la transmission et du lien intergénérationnel? Est-ce que ça peut être aussi un levier stratégique pour construire une stratégie de développement, une stratégie commerciale, et au-delà de la stratégie d'innovation qui peut exister et qui souvent est un élément déclencheur dans les stratégies d'entreprise?
Oui, alors vous touchez plusieurs dimensions, mais elles sont toutes, j'allais dire, imbriquées, parce que quand on parle effectivement de l'intérêt de la sauvegarde et la transmission de cette mémoire, il y a trois volets. Il y a un volet de management pur, c'est-à-dire effectivement de continuer à manager dans un monde, comme on dit, en évolution, en transformation permanente, donc dans son monde entre guillemets volatile et incertain, on n'est plus du tout dans les mêmes pratiques managériales. Il faut être agile, il faut s'adapter. Donc, quand on a conscience d'où on vient, quand on a l'expérience de crise ou de moments qu'on a vécu, on rebondit beaucoup plus vite. On l'a vécu avec la Covid. Demain, il y a une nouvelle crise sanitaire. Je pense qu'on a tous tiré les leçons de la capacité de rebond et d'organisation sur ces sujets-là. Donc, il y a vraiment une notion de pratique managériale en n'ayant pas fait table rase de sa mémoire qui peut être utile. Il y a une notion RH. Pour nous, c'est un des volets stratégiques les plus importants, j'allais dire, parce que comme on parle de mémoire vivante, on parle de collaborateurs et de salariés. Donc aujourd'hui, on sait que les entreprises ont perdu énormément en termes de culture d'entreprise, d'attractivité, que les jeunes générations recherchent aujourd'hui, quand ils envoient leur CV, des marques employeurs, comme on dit, j'aime pas ce mot-là, mais attractives. Voilà, ils recherchent le salaire, mais pas que. Ils veulent les entreprises qui ont du sens, ils veulent les entreprises à mission, où on valorise le pro bono. Et je me dis que pour un jeune qui arrive dans une entreprise, si dès qu'il arrive, il a conscience qu'il appartient, qu'il est un maillon d'une histoire et une courroie de transmission d'une mémoire en cours d'écriture et qu'il en fait partie, ça donne du sens aussi. Il arrive à se projeter davantage que simplement de se dire « je vais être formé et de partir au bout de 3 ans » parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près la durée de vie d'un junior dans la première entreprise. Hein. Ils feront comme ça 4 métiers, 4 entreprises au minimum. Et il y a le volet donc aussi innovation. Alors, il y a des secteurs plus légitimes pour ça parce que c'est vrai que le secteur du luxe, de l'artisanat, de la joaillerie et tout ça sont importants parce que c'est vrai que quand une entreprise, quand un jeune créateur ou un styliste arrive dans l'entreprise, il a besoin d'avoir les collections du passé pour s'inspirer, se réinspirer, voilà, de ce qui a été fait avant, de repartir de lignes, de design, pour se réinventer au quotidien. Donc sans mémoire, pas d'avenir, j'allais dire, mais là, on est au cœur du sujet aussi des créateurs.
Alors les créateurs, on le voit bien, des entreprises comme Michelin. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez pu repérer dans vos travaux de cet observatoire d'entreprises qui ont mis en place une vraie stratégie mémorielle ?
Alors sur les collectes, la collecte qu'on est en train de faire pour Michelin, là on est vraiment au début d'une nouvelle histoire qu'on aimerait dupliquer comme des petits pains dans d'autres entreprises, parce qu'en fait le POC, comme on dit, le proof of concept qu'on développe n'existe pas et n'existait pas sur le marché. En deux mots, c'est une collecte, donc un échantillon de 20 salariés seniors, retraités, futurs retraités, qu'on interroge pendant 2 heures en vidéo et avec voilà, en mémoire orale aussi, sur un entretien directif et semi-directif où on les fait parler à travers un récit de vie où il n'y a pas de censure sur tout ce qu'ils pourront, le système narratif en tout cas, nous raconter ce qu'ils ont vécu dans l'entreprise. Donc on arrive, on est vraiment dans une dimension pluridisciplinaire. Certains vont parler d'expertise métier, d'autres d'anecdotes, d'autres d'émotions, d'autres de leur relation à l'entreprise, à la famille, d'autres de leur envie de transmettre, etc. Et ce qui est intéressant dans ces collectes, c'est derrière qu'on va en faire un objet de recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on va confier à des chercheurs, à travers notre conseil scientifique, et une université, là en l'occurrence sur Michelin, ce sera l'université de Clermont-Ferrand, on va essayer d'analyser en fait tout le champ lexical, narratif, psychologique qu'il y a dans cette collecte. Donc ce qui est nouveau et intéressant d'explorer, c'est la dimension pluridisciplinaire qu'il y a derrière finalement ces récits de vie. Et il y a aussi une notion importante qui est ce qu'on peut pointer, qui sont finalement des expertises qu'on n'a pas forcément imaginées, que tout d'un coup un salarié va transmettre. Ça peut être un savoir-faire comme un savoir-être, un geste métier, une bonne pratique, une manière de réagir par rapport à, voilà, à une action de développement, de réflexion commerciale. Donc on touche vraiment à tous les domaines de l'entreprise et ça peut finalement porter des fruits. Dans tous les métiers, c'est une action transversale, j'allais dire, qui ne touche pas que le marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mémoire, on pense à la célébration d'un anniversaire.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Les célébrations d'anniversaire sont le lieu pour faire mémoire, mais ce ne sont pas les lieux de la mémoire de l'entreprise essentiellement, c'est ça ?
Voilà, c'est exactement. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais c'est des lieux communs. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas que la mémoire ne soit que l'apanage des dircoms. Parce que, sans être faire de mauvais esprit et d'être péjoratif, quand on questionne finalement les entreprises qu'on rencontre et même les directions du patrimoine, très souvent un directeur de la communication, dès qu'il a les 40 ans à fêter, les 50 ans d'un modèle, d'une voiture, d'une entreprise, là tout d'un coup, comme par hasard, on s'intéresse au passé et on va aller chercher tous azimuts qui dans l'entreprise va être détenteur de ce savoir. Et on découvre à ce moment-là que il y avait à la cave un monsieur qui gardait tous les cartons, qui avait toute la mémoire de...
Mais c'est bien, voilà, ça, plutôt. Ça peut être aussi des déclencheurs, les anniversaires.
Ça fait remonter à la lumière, voilà. Ça fait remonter à la lumière le sujet. Mais il faut avoir les moyens de le faire aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste opportuniste. Parce que souvent, on fête un anniversaire, mais ça ne construit pas une stratégie. Un anniversaire, c'est un prétexte à communiquer. Mais ce n'est pas un prétexte à se réinventer.
Alors, vous avez dit que vous travaillez avec Michelin pour recueillir la mémoire d'un certain nombre de collaborateurs qui sont partis de l'entreprise. Mais pour une entreprise, comment est-ce qu'on peut mettre, quels sont les premiers leviers à actionner pour mettre en place une stratégie mémorielle au sein d'une entreprise? On a aujourd'hui des auditeurs qui sont peut-être directeurs de petites et de moyennes entreprises. Ça ne doit pas être non plus l'apanage des grands groupes, parce qu'on sait que les TPE-PME sont quand même majoritaires dans nos territoires, et on sait aussi combien les territoires sont des moteurs et des acteurs aussi de cette mémoire. Qu'est-ce qu'on peut dire à un dirigeant d'une petite, d'une moyenne entreprise pour commencer à travailler cette question de la stratégie de la mémoire d'entreprise?
J'allais dire, le premier pas, c'est déjà de commencer, entre guillemets, peut-être qu'on pourrait imaginer un audit ou un interne ou un questionnaire sur un appel à volontariat, où on pourrait faire via les directions des ressources humaines, qui sont quand même, dans toutes les entreprises, même les petites entreprises, des postes fléchés, identifiés, d'aller poser les questions aux salariés sur ce qu'ils auraient envie de faire, comment ils aimeraient être partenaires et s'impliquer sur un recueil de récits de carrière, un recueil de récits de vie. Il y a aussi d'identifier, et là on est au cœur du sujet avec les TPE, PME, je le vois dans les Hauts-de-France avec qui on travaille beaucoup, dans des métiers très industriels, la métallurgie, la sidérurgie, la chaudronnerie, etc. On a parlé à des dirigeants, on se rend compte qu'il y a des métiers rares maintenant, enfin des métiers en voie de disparition. Mmh. Il y a des entreprises que je ne citerai pas qui ont dans leur service la dernière personne qui va pouvoir tordre des barres de fer pour faire un produit final. Et s'il part à la retraite dans 5 ans, il n'y a pas eu d'action de formation. Donc, il y a tout le volet formation aussi de ce qu'on appelle le knowledge management qui est intéressant, qui est d'aller faire l'inventaire des expertises, de les indexer, d'en faire des banques de données et de pouvoir, à un moment donné, à partir de là, être capable de capter un geste sur une journée. Avec l'intelligence artificielle, nous, on travaille avec un partenaire expert là-dessus, qui est Groupe Ardence, qui fait du knowledge management et qui peut, à partir des outils de l'intelligence artificielle, créer une banque de savoir et de connaissances d'un expert métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, parce que l'entreprise, si un savoir-faire s'en va dans l'artisanat, dans les métiers manuels et dans l'industrie, l'entreprise, elle s'arrête. Et c'est vrai dans la joaillerie, hein, on a les derniers polisseurs aujourd'hui, c'est un des métiers qui intéresse pas les jeunes. Si un polisseur s'en va, la chaîne de production s'arrête.
Alors, je me souviens d'un entrepreneur qu'on a reçu dans l'Écho des Solutions et qui s'appelle Simon Meuchler, qui a réintroduit en France le dernier point du carreau pour pouvoir créer un ballon de foot. La technique était détenue essentiellement par les Pakistanais. Il l'a réintroduite en France pour pouvoir recréer des ballons de foot. Et c'est le dernier point, en fait, qui est complexe. Il a réintroduit ça dans des usines de fabrication de ballons en cuir. Si on parle de la mémoire de l'entreprise, c'est que quelque part, c'est assez méconnu pour les entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que ça revient sur le devant de la scène ou qu'une émission comme celle-ci peut être un révélateur pour se dire « Ah oui, tiens, il faut que je prenne en compte peut-être cette dimension mémorielle dans ma boîte ?»
Alors, je rebondis parce que c'est lié. En fait, vous évoquez quelque chose qu'on a vécu avec une entreprise du textile. En fait, là, on touche toute la question de la mondialisation, de la délocalisation des entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises, elles ont laissé filer à l'international des savoir-faire. Il y a des entreprises de textile qui sont parties, par exemple, en Pologne, parce que c'était la grande mode. Donc, toutes les compétences, les ouvriers français ont formé les Polonais. Et maintenant, ils relocalisent, parce qu'on reparle beaucoup de réarmement industriel, de relocalisation, de réindustrialisation de la France. Et là, je pense que s'il y a un vrai message aujourd'hui politique, global, interprofessionnel, stratégique à valoriser, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on revient quand même à une époque où on a... une prise de conscience et un besoin de relocaliser, de réindustrialiser nos territoires. Et que cet exemple d'entreprise, par exemple dans le textile, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fermé l'usine de Pologne, ils l'ont remise dans le nord de la France. Ils se sont rendus compte que c'est les ouvriers polonais qui reformaient les ouvriers français. Donc la boucle s'est faite à l'envers. Et ça paraît hallucinant de se dire qu'on a perdu tant d'années et qu'on n'avait pas indexé ce savoir-faire. Il faut que ce soit à nouveau des processus extrêmement longs et coûteux qui peuvent mettre en péril une usine, une identité de marque, un produit, etc. Donc...
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est aussi entendu par les politiques ? Parce que quand on crée une stratégie, par exemple, comme le zéro moteur à essence ou à gasoil dans les années à venir, ça veut dire à un moment donné qu'on va perdre cette connaissance, ce savoir-faire de fabrication des moteurs pour aller sur du moteur électrique. Mais si jamais on était, pour une raison ou une autre, obligé de revenir, est-ce qu'il faudrait créer des conservatoires, finalement, de nos techniques industrielles pour ne pas les perdre ?
Alors c'est drôle parce qu'à la table ronde qu'on a fait à Lille, il y avait justement Alain Berger, cet expert d'Ardence, qui parlait de ce sujet-là, du thermique et de l'électrique, en disant on va revenir au thermique, c'est son pari, et on aura formé pendant une génération des nouveaux ingénieurs à l'électrique, et si on revient au thermique, ben, on ne saura plus le faire, alors que c'était une expertise qu'on avait en France. Donc c'est littéralement, je pense, un enjeu extrêmement intéressant, vital même, et qui devrait être pris en compte par différentes instances, les politiques évidemment, les chambres des métiers, les entreprises, des filières, et de se dire qu'il faut absolument bâtir. J'aime bien cette idée de conservatoire parce que ça... Ça existe dans des grands groupes. On parle du conservatoire Peugeot, du conservatoire Seb dans l'électroménager, qui avait créé avec les 50 ans de la cocotte minute un conservatoire d'entreprise pour garder tous ces savoir-faire dans l'électroménager. On a en France un trésor de guerre, en fait. On a des métiers qu'on a donnés aux quatre coins du monde, et finalement on se rend compte qu'aujourd'hui, si on n'a plus ce trésor, cette qui crée finalement la valeur ajoutée de notre pays, de nos entreprises, et ce capital humain aussi, je ne sais pas ce qui nous restera à part des musées, des musées à visiter, mais notre industrie, elle doit rester vivante, et pour rester vivante, elle doit mettre en chemin ces sujets-là, c'est-à-dire ce knowledge management qui est, dont on parlait tout à l'heure, comment sauvegarder, indexer, créer des bibliothèques, j'allais dire, numériques, de savoir-faire qu'on pourra, auquel on aura accès, qu'on pourra protéger, préserver, transmettre aux jeunes générations. Et je crois qu'il y a aussi des partenariats avec les écoles à faire, hein, parce que les écoles, elles forment toujours aux start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent, ils pensent que l'avenir, c'est les start-up. Donc, ils oublient tout le passé. On peut en permanence inventer un nouveau produit. Et quand on voit aujourd'hui toutes les grandes écoles de commerce qui prônent et qui donnent envie aux jeunes de faire ça, il reste 10% des start-up en vie au cours des 3 ou 5 prochaines années, de l'histoire d'un jeune qui l'a créé. Donc elles montent pas toutes, elles sont pas toutes après les incubateurs.
Heureusement, il reste encore quelques grandes écoles de l'artisanat comme les Compagnons du Devoir, le réseau des CMA. Et j'ai envie
J'allais parler des CMA.
Ouais, des CMA hein, qui sont aussi au cœur de cette transmission et qui sont en face de vrais défis, parce qu'il y a un manque aussi d'attractivité. La mémoire de l'entreprise, peut-être une réponse aussi à ce manque d'attractivité, Anne Kiefer.
Oui, parce que je trouve que ça donne un supplément d'âme et du sens. Parce que finalement, quand on parle de ces chambres des métiers de l'artisanat ou de ces métiers manuels, pour les jeunes, c'est dégradant, c'est pas valorisé, ça rapporte, à moins d'avoir cette vocation et cette mission de vie. Les jeunes, ça leur fait pas envie. Ils se disent qu'ils vont, ils pensent à des métiers souvent même, dégradants, qui rapporteront pas d'argent. Ils ont l'impression qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on leur vend et les réseaux sociaux, qu'ils pourront, avec TikTok, être riches. Mais quelque part, la mémoire, ça peut donner du supplément d'âme.
Et en même temps, puisqu'on est souvent depuis quelques années dans cette politique du en même temps, on voit de plus en plus de jeunes quitter leur poste de cadre pour aller apprendre la boulangerie, pour aller apprendre la menuiserie, la marqueterie. Donc en fait, on est dans une forme de schizophrénie.
Tout à fait, c'est schizo, parce que je pense qu'on est vraiment à une transition énorme comme on n'a jamais vécu. C'est-à-dire qu'on est à un carrefour où, moi je le vis, hein, je le vois parce que j'ai des enfants et qu'ils ont 30 ans, qu'ils ont leurs amis, j'entends les parents raconter ces histoires. Ils sont sidérés, ils ont des enfants qui ont fait des grandes écoles, hein, sans les nommer, avec des diplômes et des salaires mirobolants, qui tout d'un coup refont des écoles d'art, hein, refont des métiers manuels, veulent monter des projets à la campagne écologique, des fermes agricoles, de la permaculture. Donc je crois qu'aujourd'hui les jeunes ils cherchent tout simplement du sens, hein. Et on voit aussi les jeunes se réinvestir plus que jamais sur Compostelle. S'ils vont faire Compostelle, c'est qu'ils sont en quête de spiritualité, nos jeunes. Donc la mémoire, c'est une forme de spiritualité aussi,
Et d'ailleurs, en effet, Compostelle est un très bel exemple, parce que finalement, c'est la mémoire d'un pèlerinage au fil des siècles qui fait qu'il existe encore et qu'il y a encore des chemins pour aller de ville en ville, de village en village, pour arriver à cette ville qui est Saint-Jacques de Compostelle. Donc finalement, si je vous entends bien, la mémoire de l'entreprise peut être aussi un levier. On en a parlé un petit peu, un levier d'attractivité, mais aussi un levier de sens, le fait de savoir qu'on va mettre ses pas dans les pas de plusieurs générations d'ouvriers, de salariés, de cadres.
Alors, moi, je trouve que là, c'est finalement le message d'avenir et d'espoir qu'on peut donner sur ce sujet si on devait parler aux jeunes, c'est-à-dire que s'inscrire dans un processus mémoriel, c'est s'inscrire dans un processus généalogique, familial, sociétal, d'appartenir finalement à la construction d'un projet qui n'est pas qu'un projet intellectuel de matière grise. Et puis quand on sait aussi que on peut se dire que plein de métiers vont disparaître avec l'IA, il y a des métiers qui disparaîtront jamais avec l'IA. Donc aujourd'hui, et dans les métiers manuels et ce qu'on appelle la perfection du geste, aucune IA pourra l'avoir. Enfin, moi je crois. Donc c'est redonner aussi une garantie de pouvoir pas disparaître et rester quelque part vivant et humain. Donc la mémoire, c'est une façon de rester vivant, humain et voilà, et d'être dans une société où il y a quand même un petit peu de.
C'est quoi les. Pour revenir à l'observatoire, B2V, c'est quoi les prochaines étapes? Là, vous travaillez avec Michelin, les prochains grands dossiers sur lesquels vous allez, c'est quoi?
Il y a un autre dossier juste dont je voudrais parler une seconde parce qu'on ça pourra corroborer et intéresser des gens qui nous écoutent. On vient de lancer avec Paris Dauphine la première formation continue en France sur un certificat mémoire des entreprises. Donc on s'est dit que c'était bien de travailler avec les entreprises, mais que c'était bien aussi de former les responsables d'entreprise, les consultants, des membres de management de la transition, des responsables RH, des cadres, pas forcément que des cadres supérieurs, à cette dimension de la mémoire, c'est-à-dire comment l'appréhender, comment en prendre conscience et comment la mettre en pratique. Donc ce certificat, on l'a lancé, on est très fiers, on est mécènes de ce certificat avec Paris Dauphine, qui est une université très prestigieuse en France et en Europe. Et il démarre début octobre. Donc ça, c'est notre autre grand pari, c'est d'accompagner sur les temps longs une formation en France pour pouvoir d'ici une génération.
Ouais. Formation continue, c'est-à-dire que ça s'adresse à qui? Aux responsables RH, aux à tous les collaborateurs qui veulent le suivre? À qui
elle est destinée? Une expérience professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas les étudiants qui sortent d'un master ou d'une école. Il faut avoir la condition, c'est non diplômant, hein, c'est un certificat reconnu RNCP, mais qui est pour toute personne qui a déjà eu une expérience dans une vie professionnelle, même s'il est au chômage, il peut être dans un programme de reconversion et vouloir devenir responsable de la mémoire. Moi, je me dis que dans une génération. Je reprends le mécénat. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de directeur du mécénat dans les entreprises. On a créé la loi mécénat en 2002 avec le crédit d'impôt, la loi Aillagon. Et 10 ans après, le mécénat est rentré dans les stratégies RSE des entreprises. On a créé des directions du mécénat qui étaient des postes très importants et qui maintenant existent dans toutes les entreprises. Et ben demain, moi, je rêverais qu'il y ait des directeurs de la mémoire et qu'il puisse y avoir dans les entreprises des responsables de la mémoire avec des postes transversaux qui puissent mobiliser tous les membres de l'entreprise. Voilà. Et c'est pas qu'un projet élitiste de cadre, ça va de celui qui fait le courrier dans l'entreprise à l'hôtesse d'accueil.
Et je renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on avait enregistrée à Dijon sur une mémoire d'entreprise qui était puisqu'on le fête cette année, Anne, qui est la mémoire du conflit de l'entreprise LIP à Besançon. Et on a vu comment une entreprise pouvait, à travers le temps, continuer son aventure au travers de la mémoire de ses ouvriers et du combat syndical. Merci beaucoup, Anne Kiefer, donc, d'avoir été notre invitée de cette semaine. On va retrouver nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, je vous emmène à la découverte d'une association qui a été lauréate cette semaine de la Silver Valley et qui organise des fêtes de village dans nos petits villages les plus reculés, là où le lien social et les services publics sont absents depuis longtemps. Il s'agit de Marius Drini, qui est l'un de ses fondateurs. Mais comme on a un peu de temps cette semaine, eh bien je vous propose de faire une petite pause musicale introductive à ces villes à joie qui sont nos invités des 7 minutes pour changer.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol,
un petit goût de gnole.
Les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
vue sur les monnaies d'hier.
C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits-enfants de ce joli coin de France.
3 cafés gourmands à nos souvenirs. Quelle belle introduction justement à cette association Les Villageois. On retrouve tout de suite Marius Drini dans nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, je suis avec l'un des lauréats de la Silver Valley. Il s'appelle Marius Drini. Bonjour Marius.
Bonjour.
Marius Drini, vous êtes l'un des fondateurs d'une association qui s'appelle La Ville à Joie. Un jeu de mots que très sympa, La Ville à Joie, en 3 mots, pour reporter et rapporter de la joie dans nos villes et plus particulièrement dans nos villages où parfois il en manque un peu quand tout a fermé. C'est ça l'idée de La Ville à Joie, Marius ?
Oui, l'idée de Ville à Joie, elle vient... d'une situation très concrète qui est celle de ma grand-mère qui s'appelle Suzanne, qui habite un petit village de Côte d'Or qui s'appelle Vanvey. Et il y a 20 ans, à Vanvey, il y avait un bar, une épicerie, une boulangerie. Et tous les week-ends, il y avait un tournoi de foot, un club de pétanque, un bal. Et aujourd'hui, il se passe plus grand-chose à Vanvey. Et c'est le cas de plein d'autres villages en France. Et donc, je me suis demandé comment la jeunesse pouvait contribuer à revitaliser tous ces petits villages. Et c'est là que est venue l'idée de villageois, c'est-à-dire... amener des services de santé, des services publics, des commerces et des animations sous la forme de fêtes de village itinérantes dans les petites communes qui n'en ont plus trop.
Une idée qui vous vient de votre grand-mère ou en tout cas du village dans lequel vivait votre grand-mère. Comment est-ce qu'on anime tout ça ? Parce que quand on regarde votre site internet, vous passez vos week-ends dans des villages quasiment. Comment vous avez constitué votre équipe ? Comment vous avez constitué le projet ? Qu'est-ce qu'on peut concrètement y retrouver dans ce villageois ?
Alors très concrètement, on va organiser plein de petits événements dans des villages partout en France. On en fait 320 cette année. Concrètement, un événement, c'est en milieu d'après-midi, une équipe de jeunes qui débarque sur la place du village, qui va sortir d'une camionnette et qui va installer des tables, des chaises, de la déco, de la sono, etc. Et puis qui va donner vie à un événement de 17h à 21h la plupart du temps, donc le temps d'une fin d'après-midi et d'un début de soirée. Et l'originalité de cet événement, c'est qu'on va retrouver une guinguette à l'ancienne, où il y aura le comité des fêtes qui fait cuire des merguez, le brasseur qui sert de la bière, un petit concert. Et au milieu de cette fête de village à l'ancienne, on va avoir des stands d'intérêt général qui vont venir faire part de leurs services qui d'habitude sont cantonnés à la ville. Donc par exemple, un opticien qui va venir faire des tests de la vue, une maison France Service qui va venir dépanner les personnes sur leur démarche administrative, ou encore un conseiller France Rénov qui va faire part aux personnes des aides disponibles pour rénover son logement. Et en fait, le but, c'est que dans ce folklore un peu d'animation, on puisse lutter contre ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire des situations où des personnes ont le droit à des aides ou à des services publics, mais ne les demandent pas, parce qu'elles sont trop éloignées, parce qu'elles ne les connaissent pas. Et donc, Villageois, c'est un lieu de rencontre entre ces services et ces commerces qui n'ont plus l'occasion de rencontrer les personnes, notamment les seniors, qui sont isolés dans ces petits villages et qui ne peuvent pas forcément se déplacer à la ville pour connaître ces services.
Et donc, je suppose que tout ça permet, on aime bien dans l'écho des solutions parler d'impact et de mesures d'impact. Comment vous mesurez cet impact ? Est-ce que vous avez pu constater qu'il y a plus de joie, plus d'espérance ? Parce qu'il y a aussi la question psychologique. Quand on est seul, isolé, il peut y avoir aussi des formes d'aquabonisme, de désespérance, mais aussi des transformations peut-être de villages, des transformations de manière de se connecter les uns aux autres ?
Alors, il faut être lucide sur le constat que, surtout depuis l'après-Covid, il y a beaucoup de villages où la vie sociale ne va pas très bien, parce que beaucoup d'associations, comme les comités des fêtes, se sont arrêtés. Beaucoup de conseils municipaux ont dû faire beaucoup d'efforts pour maintenir la commune. Donc, c'est vrai que dans les villages où on passe, et on passe sur appel des maires, on va en effet viser à relancer cette vie sociale. Alors premièrement, en faisant que sur les dates, les gens se reparlent, puisqu'aujourd'hui, dans beaucoup de villages, en fait, il n'y a plus de lieux publics où il n'y a plus de moments publics où on peut se croiser et dire autre chose que bonjour. Et donc là, dans les événements, on va aussi organiser des animations conviviales comme des blind tests, des karaokés. Et il y a des personnes qui étaient voisins, mais qui ne s'étaient pas parlé depuis longtemps, qui vont se re-rencontrer, qui vont recréer des liens de solidarité. Donc il y a un vrai effet positif sur le lien social. Et le but, c'est aussi de donner goût à des associations de comités des fêtes ou à des conseils municipaux, de relancer un peu la vie événementielle de leur commune en montrant qu'on peut retrouver des bénévoles, que finalement, organiser un événement, c'est pas insurmontable si on a la bonne méthode. Ça, c'est le premier impact social. Après, le deuxième impact social qui est vraiment important, c'est créer du lien entre les services publics et, d'habitude assignés à la ville et les personnes. Et donc, sur une date villageoise, vous avez à peu près 40 personnes qui vont venir. Alors, sur des villages de 100 à 500 habitants, c'est plutôt une proportion honorable.
Vous doublez presque la population du village ce jour-là.
Il y a des villages où des fois, on vient, il y a 60 personnes dans le village et on arrive à avoir 60 personnes qui viennent, voire plus.
C'est super.
Donc, en effet, ça se démultiplie parce qu'il y a des gens qui viennent aussi un peu des communes d'à côté. Et après, comme je disais, une date villageoise va aussi créer 70 interactions entre les services publics et les gens, dont une vingtaine d'interactions vont consister au début d'une démarche à une ouverture de droit. Donc quelqu'un qui fait un test de la vue et qui va acheter des nouvelles lunettes parce qu'il en a besoin, quelqu'un qui va lancer sa démarche pour faire une carte grise parce que sa carte grise est périmée. Donc le but aussi, c'est, et je pense que c'est en rapport avec l'actualité, c'est que les citoyens voient le bout des programmes et des politiques publiques et qu'elles soient incarnées humainement au pied de leur porte.
Et ça c'est important. Quel est un peu le business model de votre proposition? Vous parliez de comité des fêtes. C'est le comité des fêtes qui achète. Vous faites entrer un budget participation aux différents partenaires, et je pense aux services publics qui peuvent être un levier de délégation de services publics pour les villageois. Comment ça se passe?
Alors, au niveau du modèle économique, c'est gratuit pour les communes qui accueillent. C'est gratuit pour les habitants, bien sûr,
bien évidemment,
nos événements. Et pour les intervenants, donc les gens qui tiennent des stands, c'est aussi gratuit. La recette vient du fait que on est principalement financé par des collectivités et des financeurs publics et parapublics. Après, ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que la tournée villageoise va intéresser plein de financeurs différents. Et ça va nous permettre de beaucoup diversifier les sources de revenus. Par exemple, on va être financé par la préfecture parce qu'on fait du lien avec les services publics, mais on va être aussi financé par l'ADEME parce qu'on limite les déplacements personnels des gens en ramenant les services à eux. On peut être financé par les caisses de retraite parce qu'on fait du lien social avec des seniors qui sont isolés dans leur village. Et donc, en fait, dans chaque territoire que l'on va couvrir, on cherche d'abord la collectivité locale qui va s'engager avec nous, qui va cofinancer à peu près 20%. Et ensuite, on va chercher les 80% avec tous ces financeurs-là variés. Et donc, c'est des budgets, en fait, un peu clé en main de tournée que l'on va proposer à ces financeurs-là. Et depuis le début que l'on existe en 2021, le modèle est excédentaire grâce à cette mécanique.
Formidable. Alors justement, le modèle est excédentaire. Recevoir un prix comme celui de la Silver Valley, puisque bien évidemment, nos villages sont essentiellement peuplés de seniors. Il y a aussi quelques jeunes qui y habitent. Il y en a certains qui retournent y habiter, mais essentiellement des seniors. Vous êtes lauréat cette année de la Silver Valley. Qu'est-ce que va vous permettre ce prix? En quoi est-ce qu'il est important pour Villageois?
Alors déjà, je tiens à remercier le jury de Silver Valley parce qu'on est vraiment touché que un projet engagé pour les ruralités et les territoires soit reconnu, puisque souvent dans le monde de l'innovation et l'innovation sociale, les projets ruraux sont pas forcément les plus présentés par rapport à leur proportion dans la population. Ensuite, ce que ça va nous permettre de faire, c'est certes le modèle est excédentaire, mais il a des besoins pour se développer. Aujourd'hui, on est présent sur 15 départements, mais en France, il y a 60 départements qui sont ruraux.
Et oui, c'est ce que je veux dire, parce que vous êtes beaucoup à l'Est. Moi qui suis à l'Ouest, je dois avouer que j'aimerais bien qu'il y ait quelques villageois qui viennent dans nos villes et villages de campagne.
Et bah, tout à fait, on vise les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, donc j'espère qu'on va y arriver. Et en effet, ce prix, il est très important parce que pour les structures comme les nôtres, le gros challenge, c'est de financer les fonctions transverses, c'est-à-dire les fonctions qui ne travaillent pas directement sur les tournées.
Bien sûr.
C'est les financeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est normal, ils veulent financer l'action de terrain. Et donc là, ça va nous permettre de maintenir des postes de développement, de prospection, pour trouver des nouveaux territoires, des nouveaux départements, à l'Ouest notamment, comme vous en parliez.
Merci beaucoup Marius, on se retrouve nous la semaine prochaine pour une autre émission. L'écho des solutions, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast sur toutes les plateformes dès 17h le vendredi soir sur rcf.fr et à 14h en FM et en DAB+, désormais partout en France, à 14h le samedi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.